Comic Zena.
Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois au téléphone l'artiste de la semaine sur notre antenne, le Nevers-sois Joseph d'Anvers. Joseph, bonjour.
Bonjour.
Alors, on dit Nevers-sois ou Nivernais pour désigner les habitants de Nevers ?
Alors, le vrai terme, alors, enfin, je suis plus parisien que Nivernais maintenant, j'ai passé plus de temps à Paris, c'est officiel depuis cette année. Donc,
D'accord.
Voilà, je suis naturalisé parisien, on va dire, mais on dit le vrai terme, c'est Nivernais en fait.
D'accord.
Voilà.
Bien. Alors, Joseph d'Anvers n'est pas ta véritable identité. Avec le temps et l'habitude, on se dit que ça pourrait l'être. Tu es parfois surpris qu'on t'appelle par ton vrai prénom ?
Non. Mais en fait, déjà, on m'appelait déjà comme ça avant. J'avais un groupe de rock dans lequel on était plusieurs à s'appeler pareil. Donc, on s'était donné des surnoms. Moi, j'avais pris mon deuxième prénom, donc Joseph. Et puis, donc, ça fait un petit moment. Donc, c'est vrai que même mes potes m'appellent Joe depuis un moment. Donc, on n'a pas de surprise.
Ouais, donc, Joseph est le prénom de ton grand-père, hein, et Anvers, bon, donc, est le nom de la station de métro située dans le quartier où tu vivais à Paris. Alors, ouais. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme à l'époque ? Tu viens de le dire, voilà.
Ouais, non, mais voilà, en fait, c'est le prénom de mon arrière-grand-père, ouais. Pour tout dire, et c'était qui lui-même avait pris ce pseudonyme. C'est-à-dire que lui s'appelait Léon, et il était dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, et il avait choisi Joseph comme pseudo, donc c'était assez marrant de perpétuer un petit peu le chose. Et puis, et puis j'avais besoin d'un pseudo parce qu'à l'époque où je suis arrivé, il y avait beaucoup de chanteurs. C'était le début de la... On était en plein plutôt dans la nouvelle scène française. Et moi, je voulais me différencier parce que je disais que j'étais pas un chanteur qui avait 30 ans, j'étais pas vraiment bobo. Et je me suis dit, si je prends ma vraie identité, je vais être comme tous ces gens qui prennent leur vrai nom. Et finalement, ma vie, qui suis-je pour qu'elle intéresse quelqu'un ? Donc j'ai choisi de construire vraiment... un personnage à partir de ce pseudo, et finalement ce personnage est devenu moi-même. Il n'y a pas eu d'histoire romancée ou quoi, mais ce pseudo m'a permis de créer un projet de toute pièce et puis peut-être de pouvoir s'en détacher plus facilement un jour.
Mmh. Alors, quelles ont été tes références musicales, toi, tes groupes favoris qui t'ont donné envie de te lancer dans la musique?
Il y en a eu énormément, hein. Moi, ma culture elle est essentiellement rock, donc j'ai grandi avec Nirvana, les Pixies, des groupes comme ça, et j'écoutais beaucoup de rock plutôt, comme on dit, patate, quoi, c'est un peu violent, pas violent, mais en tout cas très énergique. Et puis je suis arrivé un peu sur le tard à tous ces chanteurs français desquels on a tendance à me rapprocher un peu maintenant, mais dont je suis très fier, enfin, que ce soit les Dominica, les Bachung et les Daniel Dark. Et j'ai trouvé justement dans cette famille élective une espèce de pont entre ce que j'aime et ce que eux aiment aussi également, c'est-à-dire principalement de la musique anglo-saxonne et en même temps cet amour de la langue française et envie de se dire comment on peut faire pour faire une musique qui se situe ni vraiment purement en France en faisant de la chanson purement française traditionnelle et puis sans oser aller se frotter au rock anglo-saxon auquel on n'a rien à apprendre, quoi. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette espèce d'ouverture d'esprit à un moment donné avec des groupes aussi comme Diabologum, ouais. À la fin des années 90, mmh. Où je me suis dit, bon, on peut faire du rock ou en tout cas de la musique de qualité en français.
Ouais. Ah, sur certains sites internet, à ton propos, on parle d'anciens boxeurs, voire même que tu as été boxeur semi-professionnel. Tu hésitais entre les études, la musique et le sport, non?
Ouais, en fait j'ai hésité entre plein de trucs. Hein. J'ai fait 10 ans de boxe.
Ah, quand même, c'est vrai. Donc c'est vrai. Puis, d'accord.
Voilà, bien avant même j'avais fait quand j'étais gamin, enfin jusqu'à 17 ans, j'ai fait du foot à très haut niveau.
Ah bon ?
J'étais en national et j'avais même reçu une lettre de Guy Roux me demandant de rejoindre le centre de formation de la JOCR.
D'accord.
Et puis, moi j'avais 14 ans et mes parents m'ont dit la fameuse phrase, tu passes ton bac d'abord et on verra après. Et puis arrivé au bac, j'ai découvert la musique, les filles, et je trouvais ça plus intéressant que taper dans un ballon. Donc ma vie a changé un peu du jour au lendemain. Et puis c'est vrai que après il y a eu la boxe, il y a eu le cinéma par une école qui s'appelle la FEMIS. Mm-hmm. Donc je me destinais à être chef opérateur. Et voilà, j'ai toujours aimé plein de choses, plein de passions. J'ai toujours eu plein de passions. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que ce projet Joseph d'Anvers, il a été créé... avec cette identité propre, parce que je ne sais jamais de quoi demain sera fait. J'ai sorti un roman l'année dernière. Là, je suis en train de lorgner tout doucement vers du côté du cinéma, et le cinéma me fait un peu des appels du pied. Enfin, voilà, il y a un truc où j'ai pas envie de me limiter dans une activité tant que je pourrais essayer de l'amener de manière honnête avec le plus de compétences possible, on va dire.
D'accord. Alors, de ce côté, du côté de la FEMIS et du cinéma, tu privilégiais l'image au son ou tu jonglais entre ta formation Paula Girl et ton métier et ton rôle de chanteur-guitariste au sein de Super 8 après, donc c'est un peu compliqué.
Ouais, maintenant, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours fait du rock à partir voilà, du lycée, comme je disais, j'ai commencé à faire de la guitare et puis j'ai monté mon premier groupe de rock 6 mois après.
Paula Girl ?
Non, c'était pas Paula Girl, c'était un autre groupe, voilà, et puis après, il y en a eu 2 ou 3 avant de monter vraiment Paula Girl.
D'accord.
Qui lui était le premier groupe, entre guillemets, plus sérieux, avec lequel on a sorti un album, on a tourné, etc. Mmh. Super 8, ça c'était sur l'arrivée à Paris, et j'avais toujours Paula Girl à Nevers et Super 8 à Paris. Et comme j'étais étudiant donc en image à la FEMIS, je faisais les cours, tous les cours que je pouvais à la FEMIS, et puis quand je devais partir en tournée, je séchais, je partais en tournée dans le camion avec les gars et on parcourait la France pendant une semaine ou deux. Je me faisais un peu engueuler en revenant, mais ça m'a pas empêché d'avoir mon diplôme avec les félicitations. Donc j'engage tous ceux qui nous écoutent à vivre leur passion, ça n'entrave en rien la vie future.
D'accord.
Et puis c'est vrai qu'à la FEMIS, comme je faisais l'image des courts-métrages et tous les films qu'on tournait au sein de l'école et que j'étais musicien, j'offrais mes services au réalisateur et j'avais investi une petite pièce avec une belle console que personne n'utilisait, qui était devenue mon studio à moi en fait, et puis je faisais les musiques des films gracieusement pour les potes qui n'avaient pas du coup à payer de droits pour avoir les Beatles ou pour avoir Nirvana ou quoi, et moi je faisais des morceaux à la Beatles, à la Nirvana, à la Cure, et c'est ça qui m'a tout doucement amené à faire mon projet solo en fait.
Alors, Super 8 est un groupe très rock, à la limite du punk, et tu as eu un petit souci, tu t'es fait opérer d'un polype sur la corde vocale gauche. Le chirurgien t'avait dit, je cite, c'est fini, il faut plus brailler. T'aurais pu passer à côté de ta carrière de chanteur.
Bah, surtout que c'était exactement au moment où on me proposait de signer un contrat et d'en faire ma vie, quoi. Donc, ouais. C'était une période très très étrange où en gros j'avais une bourse qui s'appelle le FER. Mmh. Qui est très importante, qui est le fonds d'aide d'initiative rock, qui permet à des mecs comme moi venus de nulle part d'un seul coup d'intéresser les maisons de disques, et puis j'avais eu un morceau sur la compilation CQFD des Un Rock, donc à l'époque on était 15 sélectionnés sur plus de 6000, donc forcément il y a eu un coup de projecteur sur mes chansons à ce moment là et comme avec Super 8 ça commençait un peu à prendre et qu'on commençait un peu à jouer partout disons que je braillais plus que je ne chantais, enfin c'était vraiment très énergique, un peu à la The Drive-In ou International Noise Conspiracy, j'en suis arrivé à me faire un gros polype sur la corde vocale, à plus avoir de voix et devoir me faire opérer en urgence, et donc je suis dans une période où d'un seul coup les patrons de maisons de disques m'appelaient personnellement sur mon portable, me réveillaient même le matin pour me proposer des entrevues et peut-être des contrats, et j'étais dans l'impossibilité de parler, donc c'était complètement fou quoi. Et eux me disaient, nous on veut voir sur scène. Donc c'est une époque où je me suis beaucoup shooté à la cortisone et autres substances diverses qui me permettaient de tenir une demi-heure et d'aller jouer dans des clubs parisiens comme le Pop-In ou comme le House of Live à l'époque. Et donc j'ai un peu fait fi des conseils du médecin. Je me suis dit c'est une occasion unique et si ta voix relâche, tant pis, faut prendre le risque. Et j'ai bien fait parce que ma voix a tenu. Elle tient mieux que jamais d'ailleurs maintenant. Et puis ça m'a permis 3 mois plus tard de rentrer en studio et d'enregistrer mon premier album.
D'accord. Donc, dans ce milieu, comme dans d'autres d'ailleurs, les rencontres sont très importantes. Il y en a une dont tu parles souvent, c'est celle avec Daniel Darc qui était déterminante.
C'était la première, donc c'est vrai que c'était la peut-être la plus déterminante. C'était juste, on s'est croisé rue Rochechouart à Paris et moi j'étais en période de déprime parce que je perdais la voix, parce que les labels aimaient bien mes chansons, mais il n'y avait pas encore l'étincelle allumé par le Fer et les Un Rock, donc, et c'est vrai que j'avais une maquette sur moi, j'allais à un rendez-vous dans un label, comme j'ai croisé Daniel dans la rue, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, je l'ai abordé humblement, je lui ai filé ma maquette en lui disant écoute, je veux pas t'emmerder, je te file juste une maquette, si t'aimes bien rappelle-moi ou pas, enfin voilà, et puis j'allais partir, et il m'a dit attends, on va boire une bière, et on a bu quelques bières ensemble, et je suis jamais allé au label du coup, et à partir de là, en ressortant, c'est là que j'ai, suite à son initiative, que j'ai envoyé un dossier au Fer et que toute l'histoire a commencé. Mais après, il y a eu Mieux Sec en studio, il y a eu les Beastie Boys sur le deuxième album, il y a eu Troyon de Balthazar de Chocobor sur le troisième. Donc voilà, il y a eu plein de monde. Après, il y a eu la rencontre avec Pachoun, bien évidemment. Et donc, il y a eu beaucoup de rencontres déterminantes, mais c'est vrai que Daniel Darc, c'était la première.
Ouais. Puis il y a ta signature sur le label Atmosphérique, quand même, important. Elle a sorti en 2006, donc, de ton premier album, Les Choses en Face. Ton travail, à l'époque, est repéré par de nombreux artistes, donc, tu le disais, à la Bachung, et plus surprenant, à l'époque, Dick Rivers. La reconnaissance des professionnels est arrivée assez vite, finalement.
Bah, elle a été quasi immédiate à la sortie de l'album. C'est vrai qu'entre le moment où j'ai choisi cette maison de disques, donc Atmosphérique, parce que c'était celle qui me ressemblait le plus, et c'était pas... J'avais fait le pari d'un label indépendant et à taille humaine, alors avec peut-être moins de moyens que si j'avais signé sur les majors qui me le proposaient, mais je crois que je suis content aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là, parce que c'est des gens qui me suivent contre vents et marées, et ça a été un petit peu long à choisir, mais c'était très important ce choix, et c'est vrai que le entre le moment où j'ai signé et le moment où l'album est sorti, il y a eu plusieurs mois, et je disais que dans ces mois-là, comme j'avais lâché le cinéma pour me consacrer entièrement à la musique, je disais que j'existais pas. J'étais plus chef opérateur en cinéma et j'étais pas encore chanteur. Et à partir du moment où l'album est sorti, où l'accueil critique a été vraiment au-delà de mes espérances, hein, ça a été dithyrambique, j'ai eu d'un seul coup, voilà, une espèce d'existence, et je me suis dit, l'accueil est favorable et les gens ont un peu compris ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je veux plus faire du rock. Parce que à cause de mon problème de santé, je peux plus assumer ce côté sans concession, je vais jusqu'au bout et je crie dans le micro. J'ai pas envie de faire de la chanson, parce que c'est pas du tout faire de la chanson au sens premier du terme, et c'est pas parce que c'est pas du tout ma culture de faire des petites balades machin, et en même temps j'avais envie de calmer le jeu, donc c'était très compliqué. Et je crois que tous les médias dès le premier album ont compris que j'étais ni un chanteur on va dire pour midinette, et ni un rocker pur souche, que j'étais une espèce d'hybride, et jusqu'à mon troisième album qui est sorti il y a quelques mois, j'ai la chance d'être compris à chaque fois dans mes démarches, et ça c'est très important, c'est le plus important pour moi en fait.
Ouais. Alors tu parlais de ce nouvel album qui est sorti le 4 avril 2011, Rouge Fer. La pochette est à elle seule tout un symbole, hein. Pour les choses en face, tu ne regardais pas en face. Pour les jours sauvages, tu es de profil. Pour Rouge Fer, tu regardes l'objectif. T'es plus sûr, comme si tu t'assumais enfin.
C'est un projet, Joseph d'Anvers, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi dès le départ. C'est-à-dire que derrière ce pseudonyme, il y avait l'envie de par le nom, d'emmener quelque part, sur un territoire plutôt belge et en même temps parisien et en même temps très français, donc il y a eu toujours une réflexion à chaque étape, que ce soit le son bien évidemment, mais aussi l'image. Et c'est vrai qu'il y avait l'idée sur le premier album de pas regarder l'objectif, de regarder en bas et de faire une pochette alors que tous les chanteurs français de l'époque regardaient plein pot dans l'objectif. Essayer d'être le plus beau gosse possible, on va dire. Moi, j'avais décidé de croiser les bras, de baisser la tête, de faire la gueule, et de dire, moi, je viens de là, je viens de l'indé, de l'indépendant, du rock, et on pose pas vraiment. Et puis, il y a eu, sur le deuxième album, la pochette a été faite par un artiste londonien qui vient de l'art de la rue, du graffiti, du tag, et j'avais envie qu'il crée une œuvre, et on s'est vachement bien entendu, et du coup, il m'a dessiné en tableau, donc c'était dessiné. Et on avait décidé, comme j'étais parti à Rio et à Los Angeles pour enregistrer, que je devais regarder au loin, quoi. Et qu'en gros, il y avait encore une fois un pas de côté, et que le troisième album, qui est généralement celui de la maturité, j'assumerai, et je me montrerai à visage découvert, et je regarderai enfin les gens, comme pour leur dire, maintenant vous me connaissez entièrement, il faut trois albums pour vraiment connaître quelqu'un, je pense, en tout cas un chanteur, et puis peut-être que c'est le dernier. Donc voilà, on se regarde, et c'est une histoire... peut-être une manière de dire au revoir, de regarder enfin les gens dans les yeux et de pouvoir se dire, vous pouvez me regarder tel que je suis et bientôt peut-être que je disparaîtrai, quoi.
Rouge Fer contient beaucoup de titres anglais avec des textes en français, même si l'anglais se promène un peu dans les chansons. Il en aurait fallu peu pour que ce nouvel album s'appelle Iron Red et non Rouge Fer.
Non, parce que j'aime cette langue française. C'est vrai que l'anglais m'offre... l'anglais qui est surtout utilisé dans les refrains pour moi ou pour les invités de l'album, mais l'anglais permet une liberté de mélodie et une immédiateté dans les sonorités que malheureusement le français n'a pas toujours. Donc c'était vraiment un outil, c'est comme utiliser une guitare plutôt qu'un piano. Où, des fois il y avait l'envie de se dire, bah là je vais utiliser de l'anglais, tiens, parce que le j'ai envie de dire comme sur Leave Me Alone, Take My Body and My Soul and Leave Me Alone. Il y a quelque chose qui claque et qui sonne bien quand on l'écoute et quand on le dit, plutôt que bah prends mon corps et mon esprit et fous-moi la paix quoi. Et un truc qui était voilà un peu plus immédiat. Donc je voulais pas faire des chansons totalement en anglais parce que je trouve ça toujours compliqué quand on est français. Moi j'ai du mal à me positionner sur est-ce qu'il faut écrire en français ou en anglais. En gros je m'en fous, mais j'ai toujours un peu de mal d'entendre des groupes français chanter en anglais. Il y a un côté un peu posture, je trouve. Après il y en a qui le font très bien, je dis pas ça, mais j'avais envie de bah voilà de pas céder à la facilité et puis de j'ai envie d'être compris. Donc c'était très important que 95% de l'album soit en français et puis me laisser une petite marge comme ça de une petite marge de manœuvre pour mettre un peu d'anglais et emmener du coup des chansons qui étaient uniquement en français, quand d'un seul coup il y a un soupçon d'anglais dedans, ça emmène quelque part ailleurs et quand on revient en français on l'entend différemment. Enfin il y a tout un il y a une longue réflexion sur cette histoire là. Mais en tout cas, en aucune manière, l'album n'aurait pu avoir un titre en anglais, ça non.
Alors, on a aussi l'impression que chaque chanson est une réponse à une question sur ta vie, l'adolescence avec Sweet 16, l'ambiguïté des tubes à la radio avec Radio One, ta vie d'avant avec Danger. Rouge Fer est-il un album plus autobiographique que les autres?
Bah, il est, je sais pas, tous sont à partir du moment où on écrit quelque chose, tous, ou à partir du moment où on parle, on s'exprime d'une manière que ce soit, il y a forcément une part d'autobiographie. On peut pas être totalement neutre. Donc quand on est chanteur, en plus, bah oui, il y a une part de soit de narcissisme, soit de profonde honnêteté quand on écrit, ou soit des deux, et qui font que bah le sujet que je connais le mieux, c'est ce qui se passe dans ma tête. Alors j'ai envie d'extrapoler et de me dire, bah je suis pas différent de tout le monde, vraiment. Je suis un chanteur et il y a des mecs qui font des chansons, il y a des gens qui les écoutent. Et on est tous finalement pareils. Voilà, c'est juste, on a tous des aptitudes différentes. Et je me suis dit que si j'arrivais à parler de moi de manière honnête et vraiment me mettre à nu, je pense que ça trouverait l'écho dans d'autres personnes. Alors est-ce que c'est le plus autobiographique? Je sais pas. En tout cas, c'est celui qui est le plus écrit et c'est celui qui a demandé le plus de travail sur les textes. Et comme sur les deux premiers albums, les critiques avaient souvent mis l'accent sur les textes et que j'avais été assez demandé pour écrire des textes pour d'autres depuis, il fallait que je fasse attention. Il fallait vraiment que je soigne la prose. Et c'était le premier album que j'écrivais après mon aventure Bashung, en grosse importance du texte avec lui, et après mon roman. Donc j'avais envie d'écrire un peu différemment. Et c'est vrai que cet album a été écrit sur très peu de temps finalement, et sur des thèmes qui me tenaient à cœur. Alors comme vous le disiez, sur l'adolescence et sur la schizophrénie de l'adulte qui refuse un peu de lâcher cet âge et qui sent l'adolescent en lui qui est toujours là, qui bouillonne. Sur Leave Me Alone, de parler de ce mythe faustien et de comment on fait quand on est chanteur pour accepter le temps qui passe, pour accepter la patine, pour accepter le fait que qu'il va falloir peut-être faire un pacte avec le diable à un moment donné. Enfin voilà, tous ces sujets, j'avais envie d'en parler encore une fois dans l'idée de me dire, comme la musique va mal, comme on sait pas de quoi demain sera fait, comme moi-même je sortais d'une période très difficile, très compliquée dans ma vie, en me disant que c'est peut-être le dernier album, donc il fallait vraiment faire un album que je puisse réécouter dans 10 ans. Et que ceux qui m'écouteront quand je serai plus là ou puissent vraiment me reconnaître. Alors c'est des textes qui sont peut-être un peu moins direct et premier degré que sur Les Choses en Face, ou même Les Jours Sauvages, le deuxième album, mais en tout cas c'est des textes qui, oui, pour moi, à l'heure actuelle, en 2011, en tout cas, sont les plus personnels, oui.
Alors, ce troisième album, c'est peut-être le dernier ou c'est le dernier? C'est quoi alors? C'est quoi la suite? Tu la sais toi-même?
Je sais pas, non, j'ignore. J'ai appris, du coup, de par les diverses expériences qui ont jalonné ma courte carrière, à ne finalement plus faire de plan pour le lendemain. Je veux dire, il y avait une espèce de phrase que me disait Mario Caldato Jr., donc le producteur du deuxième album à Los Angeles. Il me disait faisons les choses et voyons ce qui se passe. Et lui, comme il a travaillé avec donc les Beastie Boys, John Spencer, Blues Explosion, avec Blur, avec plein de monde, avec Björk, j'avais envie de lui faire confiance et lui me disait mais tu sais, la musique, tous les mecs avec qui j'ai bossé, même Jack Johnson, même Beck, c'est des gens qui font de la musique comme toi et qui ne se soucient pas de l'après. Ils font des chansons parce qu'ils ont envie de le faire. Et voilà, et Bashung avait un peu cette démarche-là. Il avait une profonde intégrité que moi j'ai envie d'appliquer à ma petite entreprise, pour paraphraser le grand monsieur. et j'ai envie de, ben voilà, de faire les choses pas à pas. Donc là, je suis dans la en pleine tournée. Je sais que 2012 va être très chargé. J'ai beaucoup de dates en 2012. Et d'ici là, il y a uniquement quelques dates. Donc j'ai peut-être envie de me lancer dans un nouveau projet. Alors, j'ai peut-être le cinéma, peut-être un autre projet musical. Voilà, un projet parallèle pour histoire d'insuffler un vent de fraîcheur et de, comment on va dire. Ouais, une fraîcheur salvatrice en tout cas dans la manière de faire pour ne pas s'essouffler et pour ne pas m'écarter de la ligne de conduite que je m'étais fixée. Je me dis, parfois je me dis, bah, trois albums c'est bien. C'est
D'accord.
peut-être bien et peut-être qu'il faut repartir avec un nouveau projet où on saura que c'est moi quand même derrière, mais voilà, essayer de réinsuffler un souffle nouveau dans la musique que j'ai envie de faire
Ouais.
et de m'enlever les, comment on va dire, les quelques œillères ou les quelques contraintes que je me suis peut-être fixées à travers ce projet.
Donc, pas s'essouffler, reprendre son souffle. Tu parles de sport, là?
Ouais, toujours, ouais, non, mais je suis.
Hein?
Tu sais, moi, c'est toujours le cinéma, le sport. Alors, même si je suis forcément moins impliqué dans le sport qu'avant, hein, ça, c'est indéniable avec la vie que j'ai, mais j'aime toujours, voilà, cette philosophie. Mais qu'ont certaines personnes, tu vois, c'est pour ça que je parle souvent de, voilà, ou des gens du hip-hop, la plupart des gens du hip-hop, ou en tout cas des mecs comme, je sais pas, comme Iggy Pop, ou qui ont toujours. Enfin, j'ai l'impression de me situer plus dans ma philosophie de vie et des rapports à la musique. J'ai l'impression de plus ressembler à ces gens-là qu'à des mecs qui vont être dans, bah voilà, dans une espèce de comment on va dire, de mythe rimbaldien et de, voilà, de voilà. Moi, j'ai ce côté, oui, bah, quand même, bah voilà, on me dit souvent que je fais des chansons mélancoliques, voire romantiques. Mais comme Iggy Pop, ben voilà, j'ai besoin d'avoir le corps qui suit et d'avoir. Je suis quand même. J'ai quand même une carcasse d'1,90 m et de 80 kilos.
Ah oui.
Donc voilà, il faut que je le. Et voilà, et d'avoir fait 10 ans de boxe, ben j'ai besoin. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux. Donc j'ai besoin d'extérioriser et j'ai besoin de ce sport pour me libérer l'esprit et ne surtout plus penser à la musique. Donc j'en fais malheureusement plus assez, mais j'aime ce côté, voilà, Iggy Pop qui disait, ben ouais, je suis le camé, je suis celui ou Billy Idol, je suis le camé. Le rocker le plus camé des États-Unis. J'aimais bien cette idée que le mec puisse mettre dans des états pas possibles, se défoncer, et en même temps, bon, eux, ils vont dans une salle de sport faire de la muscule, hein, je pense, mais voilà, ce côté, ou comme le hip-hop, bah, on s'entretient, et c'est une espèce de, on va dire, d'équilibre instable, et j'aime être sur ce fil.
Bien. Eh ben, merci, Joseph Danvers, hein, d'avoir accepté notre invitation.
Merci, c'est moi qui vous remercie, avec grand plaisir.
Oui, ça fait longtemps qu'on te suit, en plus, hein.
Pardon?
Ça fait longtemps qu'on te suit.
Ben, je sais bien, ouais, je sais bien.
Depuis le début, depuis fin 2004, ton CD 5 titres, tous 6 titres à l'époque, je me rappelle.
Ah ouais, carrément même.
Oui.
Ah oui.
Oui.
C'est vrai. Bon, bah voilà, vous êtes parmi les premiers, donc j'espère que ce sera qui aura autant d'années derrière que celles qui nous ont précédées, on va dire.
Ben, ça dépend si tu fais de la musique.
Voilà, on verra.
Hein, on verra.
On verra.
Bon, rappelons que ton troisième album, donc Rouge Fer, est sorti depuis le 4 avril 2011 sur ton label Atmosphérique. On peut se procurer un peu partout, ainsi que les deux premiers, hein, tout aussi hautement recommandables. Voilà. Et puis on te retrouve sur Internet via ton site Internet, www.josephdanvers.com, qui renvoie, et c'est bien dommage, sur ton Facebook. Alors, à quand le retour d'un vrai site?
Bah, on sait pareil, on verra. Ça, c'est un
ah,
peu
le,
voilà, ouais. Des choses que je maîtrise. Pas trop, on va dire, c'est des... Moi, je suis présent, tu vois, quotidiennement sur le Facebook et sur Twitter. Alors ça me demande énormément de temps dans la journée, enfin plusieurs heures en tout cas, pour répondre aux gens, pour être présent. Et c'est vrai que le site Internet offre moins cette interactivité.
Mmh.
Et forcément, c'est aussi une espèce de budget qui n'est pas dans la priorité des maisons de disques, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui.
Donc voilà, en attendant mieux, les gens peuvent me retrouver sur Twitter et sur Facebook et derrière, c'est bel et bien moi qui leur répondrai.
Et le plus important, bah, pour nous, bah, tu seras, oui, parce que tu es également sur scène de temps en temps, même souvent. On te retrouve en concert au Marché Gare à Lyon le jeudi 24 novembre 2011.
Voilà, c'est notre première date et je
ah,
serai,
d'accord.
Pour finir pour finir 2011, je serai aussi le 1er décembre à Paris, à la Fnac Montparnasse, voilà, pour un showcase particulier pour la soirée adhérent. Voilà, comme la Fnac Montparnasse a décidé de me soutenir pendant un an, bah, je serai visite dans une formation solo un peu particulière ce soir-là. Donc voilà, là il y a mais l'immédiat effectivement c'est à Lyon le 24 novembre au Marché Gare. Oui.
Et surtout c'est plus près de chez nous, voilà.
Voilà, et c'est
voilà.
Ce sera le dernier concert en groupe de 2011. Et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que il y a une édition ultra limitée tirée à 300 exemplaires de vinyle.
Ah.
De Rouge Fer,
mmh.
Et qui pour l'instant, cette édition n'est en vente qu'après les concerts. Donc, pour ceux qui veulent et qui sont un peu, voilà, collectionneurs ou qui ont envie d'avoir cet objet assez rare, c'est le moment ou jamais, quoi.
Bien. Eh ben, Joseph, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci beaucoup.
Bon concert et puis, on espère à bientôt sur Tropic FM.
Eh ben, ça marche. Sans problème. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.